20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Ni Rome, ni la Grèce n'ont eu en Europe l'exclusive de l'art antique. Des arts longtemps jugés non classiques et barbares ont aussi émergé, notamment chez les Celtes, les Scythes, voire les Ibères. Hormis armes, bijoux, parfois sculptures, la monnaie s'avère être la principale contribution à cet art celtique. Longtemps méprisé, aujourd'hui très convoité, le monnayage gaulois se compose en effet d'une très grande diversité de minuscules œuvres d'art. Le musée du Mont-Beuvray, le centre archéologique européen de Bibracte, ont récemment organisé une exposition sur ce thème « Monnaie-monnaie » dont Eneco Iriard est le commissaire scientifique. Dans les pas des grands spécialistes de la numismatique celtique, Colbert de Beaulieu ou Catherine Cruel, Eneco Iriard, jeune chargé de recherche au CNRS, travaille sur l'apparition des premières émissions gauloises à la fin du 3e siècle avant notre ère. C'est au Mont-Beuvray, au cœur des bois du Morvan, que je l'ai retrouvé. Eneco Iriard, depuis Marcel Mauss, nous savons que toute société est basée sur le don et le contre-don, voire même la dette. Mais pour autant, comment un archéologue peut-il appréhender un tel sujet ?
Alors, l'archéologue travaille sur la matérialité. Donc, c'est vrai qu'on est dépendant des vestiges que nous ont laissés les populations passées. La dette, c'est le lien, c'est la relation qui unit des individus, des communautés. Par conséquence, c'est quelque chose d'intangible d'une certaine manière. L'archéologue peut reconnaître la dette lorsqu'il y a un objet qui matérialise cette reconnaissance de dette. Mais là aussi, autant faut-il être en mesure d'interpréter que cet objet est une reconnaissance de dette. Alors c'est peut-être plus facile lorsque c'est une pièce de monnaie dont l'usage en tant que reconnaissance de dette est connu, mais c'est peut-être plus difficile lorsque cette reconnaissance de dette est matérialisée par d'autres objets.
Et ces autres objets, ça peut être quoi, hormis la monnaie ?
L'anthropologie, et c'est quelque chose d'essentiel là-dedans, montre qu'il y a certains objets qui ont pu intervenir dans le cadre de relations sociales. Et donc, ces objets peuvent intervenir, alors pas, peut-être pas forcément dans le commerce, mais peuvent servir à structurer, à créer, à organiser des relations sociales particulières, comme par exemple des rites de passage, des dots, des relations diplomatiques. Alors là, on peut vraiment parler de ces objets comme des monnaies, au plein sens du terme.
À quel moment voit-on dans notre histoire l'apparition du phénomène monétaire ?
Là aussi, peut-être que le phénomène monétaire, ou peut-être que l'apparition de la monnaie est quelque chose qui remonte à la nuit des temps, si on considère que la monnaie est un instrument d'échange ou une unité de compte. Si on parle de la pièce de monnaie, qui est une forme particulière de monnaie, la pièce de monnaie apparaît au 7e siècle, en Anatolie, donc la Turquie actuelle, et on pense aussi qu'elle apparaît de manière concomitante dans différents endroits du monde, en Chine, en Inde notamment. Donc là, on parle de la pièce de monnaie qui est un petit objet qui va revêtir l'empreinte d'un pouvoir, d'une autorité qui va garantir la valeur de cet objet-là et donc qui va servir dans certaines transactions. Donc on parle là de la pièce de monnaie.
Pour ma part, moi, je ne suis pas sûr que l'émergence de la monnaie soit un véritable tournant dans l'histoire. Il y a eu des systèmes prémonétaires qui existent bien avant. On pense par exemple à ces fameuses haches dans des matériaux quasi du plomb ou du bronze qui sont trouvés en Bretagne. Il y a bien d'autres choses, bien sûr, en Espagne, etc., etc.
Oui, manifestement, on a certains objets, donc, par exemple en Europe celtique ou ailleurs, qui sont détournés de leur fonction d'origine. Alors on pense notamment aux dépôts de haches que l'on retrouve notamment à l'âge du bronze et à l'âge du fer. Ces haches, pour certaines d'entre elles, ne sont clairement pas fonctionnelles. On le voit de par leur alliage, des fois aussi de par leur forme. Donc on pense que ces objets ont pu intervenir dans d'autres cadres que leur fonction primaire, et peut-être qu'elles ont pu intervenir. Alors, il est difficile de cerner dans quel cadre exact ces objets ont pu intervenir, mais ils ont pu intervenir probablement dans le cadre de pratiques sociales, là aussi, hein, comme des échanges diplomatiques, certains rites de passage, par exemple.
Il y a aussi ces petits objets, ces sortes de fils d'or que l'on coupe ?
Oui, alors là aussi c'est une grande nouveauté. Bon, on retrouve sur l'ensemble de l'Europe tempérée des petits fragments de lingots d'or et d'argent. Alors souvent c'est vrai que ces lingots, on les retrouve sur des agglomérations ouvertes, notamment qui apparaissent au 3e siècle avant notre ère. Ces petits objets, ces petits lingots sont souvent interprétés comme des demi-produits destinés ensuite à participer à la fabrication monétaire. Mais peut-être que ces petits fragments d'or et d'argent, en fait, on peut intervenir dans certaines transactions vraiment comme des monnaies à part entière, où elles seraient utilisées comme du métal, de l'argent, de l'or, au poids, et servir ainsi d'intermédiaire à certaines transactions.
Vous êtes numismate ou vous êtes archéologue ?
Personnellement, je me considère à la fois comme numismate et comme archéologue. Les deux aspects sont essentiels dans tous les cas. La numismatique est une discipline fondamentale parce qu'elle étudie l'objet, la typologie des pièces, et on peut ainsi décrypter ces mécanismes pour mieux appréhender les différentes typologies, les différents usages des pièces de monnaie. Mais l'archéologie est fondamentale et on est obligé de contempler l'ensemble des vestiges archéologiques, l'ensemble des structures, l'ensemble des stratigraphies pour comprendre dans quel cadre ces pièces de monnaie ont pu être utilisées. Et là, c'est aussi un apport incontournable de ces dernières décennies où l'archéologie, notamment l'archéologie préventive, a fourni de la documentation totalement inédite qui renouvelle considérablement notre approche du phénomène monétaire. Et on voit que la monnaie n'est pas juste un objet économique. La monnaie intervient dans des cadres, dans des sphères totalement variées, dans les sphères rituelles, dans les sphères évidemment symboliques, liées à la guerre, liées aux funéraires. Donc c'est un objet vraiment multiforme qui s'introduit dans vraiment différentes fonctions et qui symbolise justement voilà, toutes ces différentes formes.
Enrico Iriar, vers 300 avant notre ère, les Celtes adopteraient la monnaie ?
Alors effectivement, au début probablement du 3e siècle avant notre ère, les Celtes adoptent la pièce de monnaie. Donc c'est vrai que c'est relativement tardif vis-à-vis de leurs voisins grecs, méditerranéens. Mais il ne faut pas voir ça comme quelque chose de primitif de leur part. C'est juste que leurs échanges obéissaient probablement à d'autres modalités. Les premières pièces de monnaie qui apparaissent ne sont pas créées ex nihilo par les Celtes. Ça va être des imitations de pièces qui circulent dans le monde méditerranéen, notamment des pièces de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, également les pièces d'Alexandre le Grand ont été imitées par les Celtes. Donc cette première phase se limite à une imitation plus ou moins fidèle de certaines monnaies qui circulent dans le monde méditerranéen. Il faut comprendre aussi que cette apparition-là émerge dans un contexte social très particulier. Les sociétés celtiques, notamment au 3e siècle avant notre ère, mais également avant et après, sont des sociétés très hiérarchisées. L'aristocratie joue un rôle dominant dans ces sociétés-là, et on le voit notamment dans les tombes de ces aristocrates, où l'on voit afficher une grande richesse, une opulence, un grand luxe, où certains objets d'une grande valeur vont se retrouver déposés. Ces objets symbolisent des relations, probablement, entre ces différentes élites aristocratiques tout au long de l'Europe. Et ces différents objets, peut-être, interviennent dans le cadre d'échanges diplomatiques entre ces différentes aristocraties européennes. Et la pièce de monnaie intervient probablement là aussi, et apparaît pour la première fois peut-être aussi dans ce cadre d'échanges diplomatiques entre aristocraties européennes. La pièce de monnaie est un objet symboliquement très fort.
Si les Gaulois adoptent la monnaie grecque et bien sûr l'effigie d'Alexandre le Grand ou de Philippe II de Macédoine, c'est probablement parce que ça correspond à leur propre mythologie ou pas du tout ?
Oui, tout à fait. Là aussi, le choix du statère de Philippe II de Macédoine n'est pas anodin, le statère. Donc une pièce d'or n'est pas anodin. Bon, les travaux de Sylvia Nieton ont notamment montré l'iconographie qui se trouve sur ces pièces de monnaie parle étroitement à tous les codes iconographiques, la symbolique qui est propre à l'aristocratie celtique. Alors on a d'un côté le visage d'Apollon sur ces statères de Philippe II de Macédoine, mais de l'autre côté aussi un char tiré par deux chevaux, un bige. Alors là aussi, il y a évidemment toute la symbolique solaire autour de cet élément-là, mais toute la symbolique guerrière. On connaît l'importance du char dans les tombes celtiques et pour l'aristocratie celtique.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que la monnaie, bien sûr, a un rôle fondamental, mais on ne la retrouve jamais dans les sépultures gauloises.
Alors, on ne peut pas dire qu'on la retrouve jamais. Il y a certaines tombes gauloises dans lesquelles on va retrouver des pièces de monnaie. Mais effectivement, c'est un événement qui est rare. Bon, on peut peut-être employer le terme d'anecdotique, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est relativement fréquent. Alors, vous savez qu'on a souvent interprété cela, du moins on sait que dans les civilisations grecques et romaines, les pièces sont utilisées dans certains usages, notamment dans le contexte funéraire, en termes d'obol à Caron. Alors c'est cette petite pièce qui servirait à payer donc Caron pour passer le Styx et arriver donc aux enfers. Il est très difficile d'adopter cette interprétation-là pour les sociétés celtiques, même si ça a déjà été fait. Pour l'instant, on ne peut pas extrapoler ce constat pour les civilisations celtiques. Il y a certaines tombes, notamment en Suisse, cela a été bien documenté, notamment par une exposition qui a eu lieu il y a très peu de temps à Lausanne, et dont cette exposition de Bibracte fait le relais. Dans certaines tombes suisses, on remarque que certaines pièces se retrouvent associées à certaines tombes, et dans tous les cas, les pièces vont se retrouver dans des sépultures féminines. Donc il semble y avoir un lien étroit entre pièces de monnaie dans une tombe et femmes, et donc la figure féminine. On ne le trouve pas dans des contextes de tombes masculines.
On connaît la légende de Luerne, la fameuse légende du roi gaulois qui jetait des pièces d'or du haut de son char. Eneco Iria, qu'est-ce que cela évoque pour vous comme récit ?
Ce récit du roi Luerne qui distribuait à la foule du haut de son char des pièces d'or et d'argent renvoie là aussi intimement à la sphère de l'aristocratie celtique. On est là aussi pleinement dans l'ostentation, dans la répartition des richesses. Donc on voit aussi que la monnaie intègre cette construction aristocratique visant à véhiculer toutes les valeurs que veut transmettre l'aristocratie. Et aussi la pièce de monnaie est un outil pour l'aristocratie, un outil de reproduction sociale.
Tout ça est lié à une vraie production. Pour frapper monnaie, il faut extraire des métaux, et par essence, des métaux nobles. Il se trouve que la Gaule, on va dire la France, recèle de gisements de la sorte.
Tout à fait. La production de la pièce de monnaie est une longue chaîne opératoire, qui va de la mine tout d'abord à l'objet. Alors tout d'abord, il s'agit d'assurer l'approvisionnement en métal. L'approvisionnement en métal peut s'effectuer par différents moyens. Par le commerce, d'une part, par la refonte d'objets, et évidemment, vous l'avez évoqué, par l'exploitation des mines. Il y a beaucoup de ressources minières en Gaule, et on a l'exemple des mines du Limousin, où on voit que durant les 5 derniers siècles avant notre ère, on estime la quantité d'or extraite de ces mines à 70 tonnes, ce qui est une quantité non négligeable. Alors là aussi se pose la question de la diffusion et de l'usage du commerce des métaux. Parce qu'on se rend compte que le territoire minier ne détermine pas forcément le métal des pièces de monnaie qui vont être frappées sur ce territoire-là.
C'est-à-dire que, par exemple, en Limousin, on ne frappe pas monnaie alors qu'on a les gisements d'or ?
En effet, on peut dire que l'essentiel des pièces émises en territoire limousin ne sont pas peut-être pas en or, donc évidemment il y a des pièces en or, mais on va beaucoup retrouver des pièces d'argent. Donc ça pose évidemment la question de la diffusion et du commerce des métaux. On a aussi l'exemple des mines des Tarbelles, citées par Strabon, donc dans le sud-ouest de la France, qui serait l'une des mines ayant fourni le plus d'or. Et pourtant, dans le sud-ouest de la Gaule, on ne trouve pas de pièces d'or. Donc ça pose évidemment la question de la diffusion des métaux.
En tout cas, les mines d'or du Limousin sont des mines absolument extraordinaires, avec d'immenses tranchées, avec une vraie technologie incroyable, des vis sans fin d'Archimède et autres, pour pomper l'eau.
Oui, tout à fait. En ce domaine, les Gaulois font preuve d'un savoir-faire extrêmement riche. Ce sont des experts en matière d'exploitation et d'extraction du minerai, cela ne fait aucun doute, comme ce sont également d'excellents orfèvres et d'excellents bronziers, comme leur montre leur production artistique, leur production métallique, leur artisanat foisonnant et très riche et d'une minutie extrême. Et tout ce savoir-faire, ils vont aussi le développer, évidemment, dans la fabrication monétaire.
France Culture,
Carbone 14,
Vincent Charpentier.
Qui frappe Monet? Bien sûr le pouvoir, mais où frappe-t-on Monet? Et d'ailleurs, les archéologues retrouvent-ils des centres de fabrication, des centres de frappe de monnaie gauloise?
On a très peu d'ateliers monétaires qui sont archéologiquement attestés. Donc c'est un vrai problème. On peut en citer un exemple, issu de fouilles INRAP au Rochereau, dans le centre-ouest de la France. Sinon, on a très peu d'ateliers monétaires qui sont archéologiquement attestés. Alors là, il faut qu'on raisonne en termes d'évidence, d'indices, qui pourraient signaler une potentielle fabrication monétaire. Donc il faut qu'on joigne, qu'on mette bout à bout ces différents indices pour peut-être souligner une éventuelle fabrication monétaire. Mais c'est peut-être aussi, et surtout, parce que la fabrication monétaire est aux mains d'artisans bronziers et d'artisans orfèvres, et peut-être liée à d'autres activités de l'artisanat du métal.
Et Nico Iria, vous nous l'avez dit, on frappe l'or, l'argent, mais il y a une grande diversité aussi d'autres métaux, le laiton, le cuivre, etc.
Oui, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en Gaule, on a réellement une pluralité de pouvoirs émetteurs. Et il y a d'autres alliages, qu'on appelle notamment l'électrum, alliage d'or et de cuivre, ou d'or et d'argent, le billon, alliage d'argent et de cuivre, notamment le potin. Et dans certains endroits, on va aussi trouver des systèmes trimétalliques, où les plus hautes dénominations seront en or, ensuite on a des dénominations d'argent, et aussi des dénominations en bronze. C'est le cas notamment des arvernes dans le centre de la France.
Alors qu'en est-il, bien sûr, des relations internationales? On a des monnaies gauloises, on a des monnaies romaines. Est-ce que tout ça s'équivaut ou pas du tout?
On le voit, les premières pièces imitent les pièces qui circulent dans la Méditerranée. Mais elles vont pas seulement imiter l'iconographie. Elles imitent aussi le métal et aussi l'étalon. Donc on se situe vraiment peut-être dans la volonté de s'inscrire dans un système d'étalon plus global. C'est vrai qu'on a certains exemples où certains monnayages vont s'inscrire dans un système métrologique romain, peut-être pour faciliter les échanges. Mais il ne faut pas non plus peut-être sous-estimer l'existence de métrologie, donc de systèmes pondéraux, propre aux sociétés celtiques.
Alors là, nous sommes devant une série de monnaies, c'est bien sûr minuscule, c'est surtout absolument superbe, l'iconographie est extraordinaire. Ce sont des monnaies que vous connaissez bien, j'imagine?
Alors là, on se situe en face d'un lot monétaire qui est issu du site de Lacoste. Donc on est en Gironde, sur la commune de Mouillé et Villemartin. Ce lot monétaire est extrêmement intéressant car il est très précoce. Il remonte à la fin du 3e et au début du 2e siècle avant notre ère. Il est vrai qu'on a longtemps considéré que les sociétés de Gaulle adoptaient une monétarisation de l'économie, c'est-à-dire que la monnaie pénétrait les transactions quotidiennes relativement tard, au milieu du 2e siècle avant notre ère ou à la fin du 2e siècle avant notre ère, notamment avec l'apparition des oppidas, qui sont ces grandes villes fortifiées généralement situées en hauteur. On reconnaît à présent des réalités urbaines antérieures depuis quelques décennies, on voit que sur l'ensemble de l'Europe, de l'Atlantique aux Carpates, se développent des vraies villes, que l'on appelle des agglomérations ouvertes de plusieurs dizaines d'hectares, avec une organisation très structurée. Et dans ces cadres très particuliers d'agglomération, dont on a un exemple ici à Lacoste, il semblerait que la pièce de monnaie intervienne très tôt dans les transactions quotidiennes. Alors on le voit notamment au niveau de la quantité de pièces précoces découvertes, donc plusieurs dizaines. On a certains exemples en Europe centrale pour le même type de site, des agglomérations ouvertes. Alors on peut parler de Nemčice en République tchèque ou de Roseldorf en Autriche. Donc des agglomérations ouvertes, on va trouver plusieurs pièces de monnaie au 3e et 2e siècle avant notre ère. Donc ce qui fait réellement penser que l'on franchit le pas très tôt, beaucoup plus tôt que ce qu'on pouvait imaginer, vers une économie monétarisée et transactions courantes. D'autant plus que la plupart de ces pièces sont parfois trouvées dans des espaces que l'on considère comme des places de marché.
J'ai vu quelques monnaies qui sont tout à fait étonnantes. Par exemple, celle-là, elle représenterait quoi?
Alors là, on se situe encore sur une pièce qui a été découverte sur l'agglomération de Lacoste. Et cette pièce est une imitation de drachme de Rhodée. Rhodée, c'est une cité grecque qui se situe sur le littoral catalan. Rhodée, donc, va y mettre des pièces qui figurent au revers une rose vue de dessous. Donc on a la tige et puis les pétales qui entourent cette tige-là. Les Gaulois du sud-ouest vont imiter, là aussi, ces pièces de monnaie, donc originellement grecques, et vont reproduire les motifs tout aller en les stylisant, ces motifs qui étaient initialement représentés sur les monnaies grecques, tout en conservant donc l'argent, le métal, et aussi en conservant le poids des monnaies grecques. Même si, progressivement, on va là aussi voir une dévaluation progressive du poids de ces pièces de monnaie, ce qui suggère aussi que ces pièces de monnaie sont utilisées pendant un certain temps et dont le poids va donc se dévaluer au fur et à mesure que le temps passe.
Alors bien sûr, nous sommes à Bibracte, gigantesque cité gauloise, oppidum gaulois. Sur un grand chantier comme ça, c'est à peu près combien de monnaies ?
Alors l'exemple de Bibracte est vraiment caractéristique du boom économique que l'on va voir à l'échelle de la Gaule à partir du milieu du deuxième siècle avant notre ère, voire la fin du deuxième siècle avant notre ère. Donc les oppidas, ces grandes villes fortifiées, apparaissent et vont canaliser les hommes, les richesses, les flux commerciaux. Et donc Bibracte est vraiment un exemple caractéristique de cela. Et on peut justement mettre en évidence cette place très importante du commerce à Bibracte de par le nombre de pièces de monnaie effectivement qui ont été découvertes. On a plus de 5000 pièces de monnaie qui ont été découvertes à Bibracte, ce qui est une quantité très importante.
Eneco Iriar, en général, sur les monnaies, on voit beaucoup d'iconographie guerrière.
Oui, alors tout à fait. Lorsqu'on dit l'argent est le nerf de la guerre, ça vaut aussi pour les Gaulois. L'iconographie qui apparaît sur les pièces de monnaie, on a énormément d'éléments qui sont liés à la sphère guerrière. On va voir des cavaliers en armes, on va voir des épées, des enseignes. On va aussi retrouver un rite très particulier qui a fait beaucoup couler d'encre, notamment chez les écrivains gréco-latins, qui est celui de la tête coupée. Cette coutume, ce rite qui consistait à prélever la tête du vaincu tombé sur le champ de bataille. Donc toute cette symbolique guerrière va effectivement se retrouver sur les pièces de monnaie. Et c'est pas anodin, ça renvoie aussi à la plupart des autorités émettrices qui sont derrière la fabrication monétaire, même si les autorités émettrices sont multiples. Mais c'est vrai que l'aristocratie guerrière a certainement joué un rôle très important dans la fabrication monétaire. Donc là, on voit aussi que la pièce de monnaie, c'est un outil symbolique fort, et c'est évidemment un outil de propagande destiné à véhiculer les valeurs des aristocraties celtiques. Et lorsque les légendes, c'est particulièrement intéressant, lorsqu'on voit les légendes qui apparaissent sur des pièces de monnaie, on voit souvent des noms apparaître sur ces pièces de monnaie. Et ces noms sont bien souvent des noms d'aristocrates guerriers, de chefs. Et là aussi, c'est particulièrement intéressant, justement, dans ce contexte du milieu du 1er siècle avant notre ère, et de la conquête de la Gaule par Jules César. Vous savez bien, Jules César écrit son ouvrage, La guerre des Gaules. Et dans cette guerre des Gaules, il parle des chefs gaulois. Et c'est intéressant quand on peut faire le lien entre certains des chefs qui sont évoqués par le texte de César avec certains noms qui apparaissent sur les pièces de monnaie.
Alors il y a bien sûr Litavikos, mais il y en a d'autres.
Oui, alors on a évidemment Litavikos, qui était chargé de lever notamment, on l'a dans le texte, une armée de 10 000 hommes. Alors c'est pas le seul, on a d'autres chefs comme Dumnorix, comme Lucterios, et évidemment, le plus emblématique d'entre tous, Vercingétorix. Et donc, tous ces monnayages-là, au nom de ces chefs, semblent pouvoir être mis en relation aussi avec des besoins liés à la guerre. Donc lié à ce contexte particulier de la guerre des Gaules, mais peut-être aussi à des événements postérieurs. Ces chefs gaulois, ces aristocrates, et donc Stéphane Martin en a notamment parlé, ces chefs gaulois vont émettre des pièces de monnaie pour lever des armées, pour financer leurs propres armées, qui vont donc participer à ces événements militaires.
Récemment, Eneco Iriar, il y a eu la découverte d'un très beau trésor, probablement, je pense plutôt en Lorraine, autour d'un site qui s'appelle Bassingue, une sorte de solde d'armée auxiliaire gauloise vendue à Rome.
Alors là aussi, on voit que les pièces sont destinées à contribuer à l'effort de guerre. Alors d'une part, on a les chefs qui vont lever des armées pour combattre contre les Romains. Mais on a aussi, d'autre part, des chefs gaulois qui vont être alliés à Rome, dont leur tâche va être de lever des armées pour combattre pour Rome. Et ce sont les chefs gaulois qui ont à leur charge de financer ces événements militaires-là. Donc ils vont eux-mêmes frapper des monnaies pour leurs troupes auxiliaires qui vont combattre ou qui vont aussi servir à contrôler le territoire une fois la conquête romaine terminée. Et c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup de dépôts. Alors le dépôt que vous évoquez est un exemple. On a aussi un exemple à Bibracte et dans évidemment beaucoup d'autres endroits qui sont les vestiges de ces petites soldes de militaires, de guerriers sur lesquels on va retrouver certaines pièces de monnaie qui sont vraiment des pièces de monnaie gauloises qui vont contribuer à cet effort militaire-là.
Alors certes, bien sûr, il y a la guerre, mais il y a aussi l'aspect religieux. Et justement, ces monnaies gauloises intègrent le monde religieux.
Oui, c'est là où on voit parfaitement que la pièce de monnaie n'est pas qu'un objet économique. La pièce de monnaie va intégrer vraiment différentes sphères, et on le voit notamment lors des fouilles de sanctuaires. Donc on a plusieurs exemples ces dernières décennies notamment, où là on va retrouver des pièces de monnaie dans ces sanctuaires-là. Alors on a différents types d'usage peut-être de ces monnaies. Il se pourrait que certaines pièces aient été liées au financement, des frais liés au fonctionnement même du sanctuaire, mais on a d'autres pièces de monnaie qui indéniablement intègrent des pratiques d'offrandes rituelles. Alors on a plusieurs types d'offrandes dans les sanctuaires. On peut avoir des offrandes plutôt massives, comme cet exemple-là, donc à Mirebeau-sur-Bèze, où on a retrouvé au sein de céramique un dépôt de 308 potins et de 10 pièces d'électrum. Donc c'est un dépôt massif qui fait peut-être penser à un dépôt de nature collective. Donc il s'agit de pièces de monnaie qui sont vraiment déposées intentionnellement. Donc on a d'une part, c'est vrai, ces gestes peut-être plus collectifs. D'autre part, on a des gestes plus individuels qui correspondraient au jet de pièces de monnaie.
Et justement, à Bibracte, il y a ça.
À Bibracte, c'est très intéressant. On a l'exemple de la fontaine Saint-Pierre. Donc, à l'intérieur de cette fontaine, on va retrouver des pièces de monnaie, évidemment, celtiques, gauloises, mais on va aussi retrouver des pièces de monnaie romaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi des pièces de monnaie contemporaine. Là, on a des euros face à nous, par exemple, ce qui est particulièrement intéressant, ce qui montre aussi la pérennité de certains gestes, de certaines croyances, ce qui aussi pousse à appréhender certains usages de la pièce de monnaie dans la diachronie. C'est vrai qu'on pense tous à certains exemples qui nous viennent directement à l'esprit. On pense notamment à la fontaine de Trévis, qui est vraiment voilà, l'exemple auquel on pense, où on jette une pièce de monnaie dans l'espoir qu'un vœu se réalise, notamment. Donc on a vraiment cette continuité des usages qui est vraiment très intéressante et très évocatrice.
L'iconographie celtique de la numismatique est quelque chose d'absolument fondamental. On serait sur vraiment l'expression artistique celtique au travers de la monnaie ?
Clairement, ce qui est très beau dans ces pièces de monnaie gauloises, qui sont des tout petits objets, hein, qui font 1 à 2 cm de diamètre, sur ces tout petits objets, en fait, va se développer un foisonnement iconographique sans précédent. Et ce foisonnement est aussi le reflet de la multiplicité des pouvoirs émetteurs qui cherchent aussi à différencier les émissions entre elles. Et sur ces petits objets vont se développer toute une palette de représentations diverses et variées, extrêmement stylisées. Alors, on a longtemps considéré cet art celtique, que l'on voyait notamment sur les monnaies, comme un art un peu dégénéré, parce qu'il s'éloigne en fait du réalisme classique grec et romain. Et il faut attendre le milieu du 19e siècle avant notre ère, avec notamment les travaux de Huchet, pour remettre à leur place tout cet art, vraiment, qui est un art original, d'une créativité folle, on peut le dire, où les motifs sont décomposés, recomposés, agencés, jusqu'à aboutir parfois à des abstractions complète, mais on a vraiment, les pièces de monnaie sont vraiment représentatives de ce foisonnement iconographique des Celtes.
En tout cas, c'est ce qui plaira à André Breton et aux surréalistes.
Effectivement, André Breton va être totalement subjugué, en fait, par la liberté créatrice et l'originalité dont ont fait preuve les Gaulois sur les pièces, en s'émancipant, selon lui, de cet art classique gréco-romain. André Breton va lui-même se mettre à collectionner des pièces de monnaie, et il va lui-même sur un petit cahier d'écolier dessiner les pièces de monnaie, ce qui montre réellement l'attachement qu'il avait pour l'art celtique et comment aussi cet art celtique a pu inspirer ses pensées et le mouvement surréaliste d'une certaine manière.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Pierre Monteil et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture sera consacré à l'exceptionnelle grotte de Kapova, Shulgantash, au cœur de la République de Bashkirie.